Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu dans le chapitre 26 de la Genèse, les versets 1 à 11. Genèse 26, versets 1 à 11. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « Ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. » Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » On peut vous asseoir. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui, tout simplement, le sermon d'aujourd'hui, « Le Seigneur éprouve Isaac par l'adversité, mais il veille. » On va voir que ces deux idées-là sont dans le texte, que Dieu éprouve, on va voir que dans le texte, il l'éprouve de deux façons. Il l'éprouve d'une certaine manière, mais la réponse d'Isaac, la première réponse a été l'obéissance. La deuxième, il a envoyé une autre épreuve, et cette fois-là, au lieu d'obéir, il a désobéi. Et on voit que quand on dit « Dieu éprouve Isaac par l'adversité », donc il va y avoir deux choses adverses qui vont arriver dans sa vie. Un où il va répondre par l'obéissance, l'autre il va répondre par la désobéissance. Mais quand on dit « il veille », donc on va voir que même quand on fait une bêtise, alors c'est vraiment le texte à... La chose à retenir quand on lit un texte comme ça. Il arrive que Dieu nous envoie une épreuve et on ne réagit pas correctement à l'épreuve que Dieu nous envoie. Mais Dieu veille. C'est pour ça que j'ai intitulé ça. Le Seigneur éprouve Isaac par l'adversité. Mais on pourrait dire, le Seigneur éprouve, là, mettez votre prénom. Puis ça, c'est le texte d'aujourd'hui. Alors, le Seigneur éprouve les personnes qui sont des croyants par l'adversité. Mais il veille. On va voir le développement de cette idée-là dans le texte. Alors, les versets 1 à 6, c'est vraiment l'adversité d'Isaac que Dieu lui envoie, qui est vécue dans l'obéissance. Et les versets 7 à 11, on va voir l'adversité que Dieu a permis qu'il arrive dans la vie d'Isaac, vécue dans la désobéissance. Et il y a des leçons importantes à retenir spirituellement de ces choses-là. Alors, on le sait, aucun enfant de Dieu n'est exempté de l'épreuve et aussi de la discipline. Donc, des fois, c'est des épreuves, mais aussi Dieu permet qu'il arrive des choses difficiles dans nos vies. Et le but, c'est de nous discipliner. Un peu comme quand on discipline un enfant qui fait des choses pas correctes, on ne le laisse pas faire. On intervient pour lui montrer à vivre, comme on dit. Alors, aucun enfant de Dieu n'est exempté de l'épreuve et de la discipline. Tout le chapitre 26 illustre ce fait-là. Alors, le Seigneur les exerce, les épreuves, dans toutes nos circonstances. Et on va voir les différentes circonstances. Versets 1 à 11, cette semaine, quand on parle de tout chapitre 26, aujourd'hui on fait juste les versets 1 à 11. Alors, dans toutes nos circonstances, l'adversité. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu agit dans les circonstances d'adversité qu'il nous envoie. Et dans la semaine prochaine, ça va être 12 à 25, ou l'autre semaine d'après, 12 à 25, c'est dans la prospérité. Puis des fois, Dieu nous éprouve par la prospérité. Quand Dieu nous envoie une grande prospérité, il y a un danger aussi à cela. Le danger de trop s'attacher au bien de la terre et à s'éloigner, pensant que c'est nous qui est la cause de cette prospérité-là et non pas la main du Seigneur. Et la troisième, c'est l'amertume, on va le voir dans le verset 26 à 35. On veut avoir une vue d'ensemble du chapitre 26. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder comment Dieu éprouve et exerce sa discipline dans la vie d'Isaac, dans les versets 1 à 11. Alors, on se doit de lire et de méditer ces passages-là de la vie d'Isaac. On ne se doit pas de regarder ça comme une simple histoire. Le danger de lire les Écritures et de voir juste une histoire, c'est réel. Parce qu'on peut lire ça, bon, encore que Isaac a vécu ça. Et si on ne prend pas le texte pour faire une application dans notre vie de tous les jours, on manque le bateau, comme on dit. Alors, on se doit de lire les passages, mais aussi de les méditer, en se souvenant que le Seigneur utilise ces moyens-là aussi dans nos propres vies. Alors, c'est vrai que le Seigneur envoie des adversités que parfois, si on obéit à ce qu'il nous demande, c'est un succès, comme on va voir dans les premiers versets, mais quand on désobéit, on va voir, quand on pêche, au lieu d'agir correctement, quand le Seigneur nous envoie quelque chose. Alors, l'épreuve, ça fait partie de la vie du chrétien. Le Seigneur ne exemptera pas l'épreuve dans la vie d'aucune personne. Quand on lit, par exemple, dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, le chapitre 1, les versets 2 à 4, ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie. » Là, il est en train de parler d'épreuve. Puis il nous dit qu'on se devrait de regarder ça avec une parfaite joie. Est-ce que c'est notre cas? Des fois, quand le Seigneur nous envoie quelque chose, on n'est pas toujours dans un état de dire « Merci Seigneur de m'envoyer ça, ça fait du bien, ça fait mal, mais ça fait du bien. » Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire, Jacques, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie. » Pas d'une joie un petit peu, là. Parfaite. Parfaite joie. Quand vous serez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On a-tu besoin de patience, des fois? On a énormément besoin, je pense. Mais le verset 4, ça dit, « Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de sorte que rien ne vous manque. » Si Dieu nous les envoie, c'est parce qu'on a besoin et que ça produit quelque chose dans nos vies. Sinon, il ne les enverra pas. Il ne nous envoie pas une épreuve pour nous faire souffrir par plaisir. C'est toujours dans le but de nous améliorer, de nous rendre semblables à Jésus-Christ davantage chaque jour. On a aussi dans 1 Pierre, où on parle de la même chose, dans le chapitre 1, les versets 6 et 7. « En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » Parce qu'il dit, tout à l'heure, il disait le sujet de parfaite joie, mais il dit ici aussi que des fois, ça nous attriste. « Quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » Verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, » En train de dire que le Seigneur, quand il nous envoie une épreuve, c'est plus précieux que de l'or. Mais on ne s'en rend pas compte. On est toujours porté à ruer dans les brancards, comme on dit en Québec, en québécois. On est porté à chialer, et ce n'est pas ça qu'on devrait faire. Et il dit, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Autrement dit, à long terme, ça va amener quelque chose qui va amener de l'honneur à Jésus-Christ. Mais on ne le voit pas nécessairement tout de suite. Il y a maintenant aussi, des fois, le Seigneur envoie les épreuves pour nous corriger. Un peu comme on fait quand un enfant qui fait une bêtise, on ne le laisse pas faire. Et le Seigneur, quand il nous regarde, il nous regarde en compte, il n'y a rien qui lui échappe. de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Et parfois, il envoie quelque chose qui est difficile dans nos vies, dans le but express de nous corriger. Alors, Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. » C'est important de se rappeler ça. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. « Tous ceux que j'affectionne, il y a Dieu qui parle, tous ceux que j'affectionne, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et te convertis. » Donc, on va regarder le premier point qu'on a dit, l'adversité d'Isaac qui est vécue dans l'obéissance, dans les versets 1 à 6. Alors, dans le verset 1, on voit que c'est le Seigneur lui-même qui envoie l'épreuve. Ça, on oublie souvent ça. On voit ça juste comme les circonstances de nos vies, on pense que c'est des hasards. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Alors, dans le verset 1, ça dit, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y avait eue au jour d'Abraham. » On se souvient comment Abraham a réagi quand il y a eu, est descendu en Égypte. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guéra. C'était pas un hasard. Dieu permettait, Dieu voulait que Isaac soit éprouvé. Une famine, là. C'est pas ce, parce qu'il faut se replacer dans le contexte. Dieu avait dit à Abraham et à Isaac et à Jacob, plus loin, qu'il lui donnait une terre. Et bien entendu, l'idée qui est en arrêt de tout ça, la personne doit se dire, mais la terre que le Seigneur va me donner, ça va être prospère, il n'y aura rien qui va clocher là-dedans. Pourtant, le Seigneur y envoie une... Une famine, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pousse. Puis là, surtout pour quelqu'un qui est un berger, il n'y a plus rien qui pousse, tu n'es plus capable de t'occuper de tes bêtes, ça ne va pas bien dans ta vie. Alors, il doit y avoir un moment dans ta tête où tu dois te poser, veux-tu bien me dire pourquoi le Seigneur m'envoie une famine alors que me semble que j'aurais besoin d'autre chose qu'une famine? Alors, les épreuves des justes comportent des similarités d'une génération à l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Abraham avait vécu ça, lui aussi. Alors, une génération, on passe d'une autre génération. Le Seigneur le fait passer par la même chose que son père Abraham. Il y a eu une épreuve. Abraham avait descendu en Égypte. Lui, il en vit une. Mais là, Dieu va là, on voit la bonté de Dieu. Quand on dit, mais il veille. Il veille. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. « Mes bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Il dit de ne pas se surprendre de ça, c'est des choses qui ils vont arriver. Et l'épreuve ici pour Isaac est particulièrement sévère, parce que Dieu, il avait vu que Dieu voulait, il avait fait des promesses, Dieu lui avait donné des bénédictions, et les bénédictions de l'Alliance, et bien entendu, il s'attendait qu'il posséderait le pays de Canaan, il s'attendait qu'il était pour avoir une postérité nombreuse, et il s'attendait également qu'il y aurait la victoire sur ses ennemis, tel que Dieu l'avait promis. Voyez-vous dans Genèse 22, Genèse 22, ça, il faut se souvenir que dans Genèse 22, Dieu avait fait cette promesse-là lorsque Abraham avait accepté de sacrifier son fils, alors quand Dieu lui avait demandé. Et après qu'il avait réussi cette épreuve-là, le Seigneur lui avait donné une promesse. Et on va la relire, parce que c'était important de voir ça dans le contexte de la continuité. Versets 16 à 18, Genèse 22, et dit, « Je jure par moi-même, l'Éternel qui jure. » As-tu besoin de jurer, l'Éternel? Il dit jamais de mensonge, jamais. Mais là, pour démontrer la gravité de sa parole et de la certitude que c'était pour se réaliser, Dieu jure, dit, « Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, » fait cela quoi? Il a accepté de sacrifier son fils comme Dieu lui avait demandé, « et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » La postérité, c'était d'Abraham, c'était qui? Jésus-Christ! Ça nous dit dans le livre de Galates que la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Quelque part, les bénédictions passent par la personne de Jésus-Christ. Pour eux, c'était le Jésus-Christ à venir. Pour nous, c'est le Jésus-Christ venu. Alors, c'est juste une différence de perspective. Alors, bien entendu, le patriarche Isaac devait s'interroger sur la nature des bénédictions divines promises, alors que le pays n'offre même pas de quoi se nourrir. Une famine, t'as rien à manger. Alors de plus, l'épreuve est singulière pour un berger qui doit s'occuper d'un important troupeau. La tentation du doute peut alors l'assaillir, n'est pas ce qui peut nous arriver à nous autres aussi. Ça serait quoi l'équivalent de nous, une famine dans nos vies, l'équivalent d'une famine comme lui vit là? Ça serait comme, disons, quelqu'un, disons sa femme ne travaille pas, on va prendre un exemple facile à comprendre. La femme ne travaille pas, le mari a une bonne job, fait des années, jour au lendemain. Il a 55 ans, disons, perd sa job. Ça, c'est un moment qui ressemblerait à... Est-ce que dans ce temps-là, on doit se décourager ou si on doit continuer à faire confiance à Dieu? On se doit de continuer de faire confiance à Dieu, mais on a de la misère avec ça. Mais si Dieu permet ça dans le but de nous transformer, de nous apprendre à lui faire confiance, à aller au trône de la grâce dans ce temps-là. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, la tentation du doute peut assaillir un croyant. Et ça peut t'amener à agir d'une façon insensée. Ça aurait été quoi la manière insensée d'agir d'Isaac? Ça aurait été de faire comme Abraham, de descendre en Égypte. Mais Dieu, le titre que j'ai dit du sermon, c'est « Dieu veille ». Alors, sachons que les circonstances d'Isaac, comme les nôtres, sont souverainement envoyées et contrôlées par le Seigneur lui-même. Alors, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39, on dit « Voyez maintenant que c'est moi-même, et qu'il n'y en a point d'autre, Dieu comme moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. » Lamentations, chapitre 3, versets 37 et 38. « Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandée? Les maux et les biens ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut? » Ça fait réfléchir, ça, hein? Beaucoup. Donc, on le regarde dans les versets 2 à 5. Donc, le Seigneur envoie l'épreuve. Deuxième idée, le Seigneur veille à nous donner les moyens pour les vivre correctement, les épreuves. Versets 2 à 5. « Et l'Éternel lui apparut. » Hey, t'as une grosse épreuve. Disons que tu perdrais ta job, là. Ton mari a 55 ans, il perd sa job, puis toi, tu travailles pas. Là, tu dis, ah, ben là, on est dans un problème. Plus d'argent pour payer l'hypothèque, plus d'argent pour payer la bouffe, plus d'argent pour rien. Puis là, tu dis, à l'âge que j'ai, comment je vais faire, moi, pour me retrouver un autre job, là? Alors, c'est un peu l'équivalent. Mais là, ici, on voit une caractéristique de Dieu. L'Éternel lui apparut. On serait-tu content quand il nous arrive une affaire de même que l'Éternel nous apparaisse puis qu'il vienne nous consoler? Et il lui dit, ne descends point en Égypte. Il ne l'avait pas fait à Abraham. Mais pour Isaac, il lui dit, il lui apparaît puis il lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure au pays que je te dirai. Là, il y avait deux possibilités. Ou bien non, ah ben là, moi, il n'y a pas rien à manger ici, je m'en vais là. Ça, c'est la désobéissance. Qu'est-ce qu'il a fait, verset 3? Et le Seigneur lui dit, séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. Et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais commandé, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors le verset 2 nous montre le moyen de grâce que le Seigneur accorde à son serviteur Isaac. L'Éternel lui apparut et lui dit. Alors la grâce que reçoit Isaac est particulièrement riche. Une apparition personnelle de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous apparaître chaque fois qu'on va traverser une épreuve difficile. Ça serait bien trop facile. Alors le Seigneur va manifester sa bonté de trois manières. Premièrement, en lui parlant personnellement. C'est Dieu qui parle. Deuxièmement, en l'avertissant. Va pas là. Et le troisième, il le conseille. Reste ici, je vais m'occuper de toi, je suis avec toi. Alors, le moyen de l'accompagnement. Dieu promet à Isaac qu'il sera personnellement avec lui. Vous comptez le nombre de « je » qu'il y a dans ce verset-là, verset 3. Il dit « Je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai à toi et à ta postérité, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait 5 fois. » Je. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, il me... C'est sûr que ça va arriver. Alors, le moyen des promesses aussi, il dit « Je multiplierai ». Donc, Dieu promet la multiplication de sa postérité et des bénédictions qui s'étendront à toutes les nations. Par qui? Par l'intermédiaire de celui qui était la semence, qui était Jésus-Christ. Alors, pour eux, c'était d'avoir la foi au Jésus-Christ à venir, comme on dit. Maintenant, vu qu'il est venu, nous, on regarde... Eux, regardaient en avant, Jésus-Christ à venir, nous, on regarde en arrière, celui qui est venu. Et il lui donne un conseil, verset 5. Il lui dit, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts, mes lois. » Autrement dit, écoute ce que je te dis, ça va bien aller. N'est-ce pas ce qu'il nous dit dans les Écritures, dans toutes les Écritures au complet? Écoute ce que je te dis, ça va bien aller. Mais on est têtu des fois un petit peu. Alors le Seigneur le rassure en lui rappelant qu'est-ce qu'il a fait avec son père Abraham. L'obéissance d'Abraham a été pour lui, pour Isaac, un modèle à suivre. Regarde la vie de ton père. Il y a eu des manquements, mais dans l'ensemble, Dieu l'a toujours conseillé. Et le verset 6, le Seigneur l'encourage à l'obéissance, qui nous dit, « Isaac demeura donc à Guérar. » Un problème, l'intervention de Dieu, il obéit. Tout va bien. La première partie. Là, on tombe dans la deuxième partie. L'adversité que Dieu va encore envoyer dans la vie d'Isaac, mais que là, il va la vivre dans la désobéissance. On relit le passage. Et quand les gens du lieu, autrement dit, il était à Guérar, il y avait des Philistins, et là, les gens de la place disent, « Hé, donc bien belle ta femme! » Dans le temps, le danger, c'était que quelqu'un qui veut le coucher avec, ou qui disent, « Moi, je n'ose pas la toucher, mais on va l'emmener au roi. Lui, il va être bien intéressé à l'avoir. » Alors, il dit, « Les gens du lieu s'informèrent de sa femme, et il répondit, « Là, il a menti. Il avait peur qu'on le tue à cause de la beauté de sa femme. » Et là, on voit une différence avec la première épreuve qu'il y a eu. La première épreuve, il obéit. La deuxième, il ment. Dieu t'a jamais demandé de mentir. Il aurait fallu qu'il fasse confiance à Dieu de le protéger malgré les difficultés qui lui semblaient insurmontables. Là, il a dit, vous remarquerez que ça ressemble à son père. Hein? Abraham, qu'est-ce qu'il avait dit lui aussi? C'est ma sœur. Alors, on voit que le pattern humain, quand on est dans des difficultés, on a tendance à se fier à nous plutôt qu'à se fier à Dieu. C'est ça qui se faisait, là. Il dit, si je dis que c'est ma soeur, moi, je me fiche à la paix. Puis moi, je vais avoir la vie. Je vais être bien, moi, correct. C'est rare qu'on est béni quand on fait des mensonges, que Dieu va intervenir. Et si ça n'aurait pas été du fait que Dieu a veillé sur lui, ça aurait pu tourner à la catastrophe. C'est toujours comme ça. Alors, c'est les leçons qu'il faut retenir de ça. Car il craignait de dire « c'est ma femme ». De peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Or, il arriva, quand il eut passé un assez long temps, qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac qui jouait avec Rebecca, sa femme. Allez, Dieu a permis que le roi regarde à la fenêtre, puis ils ont vu jouer ensemble, puis il a dû s'être dit par raisonnement, d'habitude, on ne joue pas de cette façon-là avec nos sœurs. C'est un petit peu trop intime. Donc, il a allumé. Il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa femme. Verset 9, alors Abimélec appela Isaac et lui dit, « Certainement, voici, c'est ta femme, et comment as-tu dit, c'est ma sœur? » Autrement dit, c'est un païen qui vient faire un reproche à un croyant. Ça devrait être la plus grande honte qu'on devrait avoir dans nos vies. Un païen qui vient te reprendre d'un péché que tu fais, puis il en a connaissance. Et il dit, et Isaac lui répondit, il a essayé de se trouver un prétexte comme de raison. Ben oui, mais j'ai fait ça. Il dit, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Hey, il prenait un grand risque pour sa femme, pour lui-même, puis pour ceux qui étaient avec lui. Et Abimélec dit, on sent l'indignation chez un païen qui voit faire une faute chez un chrétien ou chez un croyant. Et là, il dit, « Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu nous aies rendu coupables. » Un païen qui se rend compte des conséquences du péché d'un croyant. Autrement dit, on aurait pu avoir le jugement divin à cause de ton mensonge. Et Abimélec donna cet ordre. Alors, on voit ici un païen agir correctement, alors qu'un chrétien agit incorrectement. Et il dit, Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Alors le Seigneur permet encore une fois l'adversité dans le verset 7, dans la vie d'Isaac. Alors il veut l'éprouver de nouveau. Il lui fait revivre l'épreuve qu'il a fait vivre à Abraham, son père, où celui-ci, par faiblesse, a menti à deux reprises. Il faudrait retourner un petit peu dans l'histoire, parce que c'est arrivé deux fois. Abraham, il a été éprouvé par cela, et la première fois, il a tombé. Et Dieu a permis que ça arrive une deuxième fois, il a tombé encore. Les Écritures nous apprennent souvent que quand Dieu nous envoie une épreuve dans le but de nous corriger, et si on n'a pas appris la leçon, il nous ramène dans la circonstance, la même circonstance, pour voir si cette fois-là, on va agir comme il faut. Et ici, on est en train de rappeler que son père, lui, n'avait pas agi comme il faut, par deux fois. Alors, lui, c'était à cause de la beauté de sa femme Sarah. Et lui aussi, c'était pour sa peur d'être tué à cause de la convoitise des gens du pays. Alors, Genèse 26, verset 7, « Et quand les gens du lieu s'informèrent de sa femme, il répondit, c'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme. De peur, disait-il, que les habitants ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. » Voyez-vous, des fois, la beauté, ça peut arriver que ça soit même une épreuve. Dans son cas, là, c'était une épreuve. Alors, Dieu, bien que Dieu a promis d'être avec lui, Isaac préfère sacrifier l'honneur de son épouse. C'était grave ce qu'il faisait, là. Juste pour protéger sa vie, il est en train de mettre l'honneur de sa femme. C'était pas très fort, son affaire, pour garantir sa propre sécurité. Le mensonge d'Isaac est pire que celui d'Abraham, car il est non mitigé. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Abraham, lui, c'était sa demi-sœur. Donc, c'était comme un demi-mensonge qui est un mensonge. Mais ici, c'était pas le cas, c'était pas sa sœur, c'était pas sa demi-sœur. Son mensonge était vraiment un mensonge complet. Là. Son mensonge est qualifié de la façon suivante. C'est un mensonge délibéré, c'est un mensonge lâche, parce qu'il mettait la vie de sa femme et la sienne et son entourage en question. Il était non nécessaire parce qu'il aurait dû faire confiance au Seigneur pour sa protection. Et c'était un mensonge d'incrédulité parce que Dieu lui avait dit qu'il serait avec lui. Et c'était un mensonge qu'on pourrait dire misérable. Ça nous arrive-tu, nous autres, des fois, de traverser une épreuve où on peut avoir une réaction, nous aussi? On peut compter un mensonge, on peut faire toutes sortes de foleries qui ne correspondent pas à ce que Dieu nous demande. Alors, le verset 8 à 11, c'est « Le Seigneur veille ». Ça, c'est important de réaliser cet aspect-là, que Dieu est toujours présent et nous voit faire nos bêtises. Et s'il n'était pas là pour les corriger, il aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves à tout cela. Parce que des rois, là, à ce temps-là, les rois, là, ils avaient le pouvoir de « Bon, regarde, là, tu ne me niaiseras pas deux fois, là. Tu as voulu rire de moi, mais il zigouillait. Pas plus compliqué que ça. » Ici, Dieu permet que Dieu découvre son stratagème par un peu, qu'on pourrait dire, un hasard. Il regarde par la fenêtre, puis il voit, ensemble. D'après moi, c'est pas sa sœur, ça. D'après moi, ça a plus l'air de sa femme. Tu sais, quand tu joues, là, mais tu joues, comment on peut dire, sérieusement. Alors, Dieu est gracieux et il utilise nos erreurs et nos faiblesses pour nous enseigner des vérités sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu lui aussi. Alors, il utilise tous ces événements-là. Alors, Dieu veille en permettant que le mensonge soit découvert dans le verset 8. Alors, on voit qu'Abraham a regardé par la fenêtre, il se rend compte que, d'après moi, ça a plutôt l'air d'un gars qui est marié et qui joue avec sa femme, là. Alors, le Seigneur permet qu'Abimélec, roi des Philistins, soit perspicace et n'ait pas été dupé par le mensonge d'Isaac. Il n'a même pas vérifié. Il voyait par le comportement, ça, je ne peux pas qu'un gars joue de cette façon-là avec sa sœur. C'est sa femme. Assez perspicace pour voir clair dans le jeu. Alors, en effet, il a vu qu'Isaac et Rebecca se manifestaient une affection qui est caractéristique de celle qui unit un mari avec sa femme. Qui n'a pas de jeu joué avec sa femme qui est mariée? On joue des fois, mais des fois, ça peut. C'est un jeu qui est intime. Si quelqu'un le voit de l'extérieur, il comprend bien que ce n'est pas juste un amusement entre frères et sœurs. Alors, Dieu veille en permettant que le mensonge soit découvert dans le verset 8. Dieu veille en permettant que le mensonge soit condamné dans le verset 9. Alors, Abimélec appela Isaac et lui dit, « Certainement, voici, c'est ta femme. » Pas fou, le gars, hein? Regarde, là, on a déjà vu d'autres, là. Et comment as-tu dit? Là, il est indigné. « Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? » Et Isaac lui répondit, « Ce que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. » Donc, il fait passer sa sécurité avant celle de sa femme. Quelle honte de voir un enfant de Dieu repris et corrigé par un païen. Ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, je répondais dans votre tête. D'être repris d'une faute que vous avez faite par quelqu'un qui n'est pas converti. Quand ça arrive, là, on se devrait d'être roux comme des tomates, comme on dit. Alors, le mensonge d'Isaac est étalé au grand jour. La réponse d'Isaac manifeste sa folie. Premièrement, incrédulité face à Dieu. Deuxièmement, risque pour la vie de Rebecca et la sienne. Et troisièmement, du discrédit sur le nom de Dieu. Lâcheté de sa part, c'était pas très courageux ce qu'il faisait là. Et un grand risque d'attirer de sévères jugements divins sur Abimélec et sur son peuple. Parce que c'était la façon d'agir de Dieu. Si ça s'était arrivé, Dieu aurait pu envoyer des jugements très sévères, non seulement sur le roi Abimélec, mais sur tout son peuple. Hey, c'était grave ce qu'il faisait là. Je ne sais pas jusqu'à quel point il se rendait compte de la gravité de son geste, là, mais il reste que c'était ça quand même. Il a fait un geste qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur une multitude de personnes. Quand on parle de petits péchés, il faut qu'on se reporte à considérer. Oh. L'individu, c'est ma sœur. Mais les conséquences que ça aurait pu avoir, sa vie, la vie de sa femme, la vie de son entourage, la vie d'Abimélec et la vie de tout son peuple, c'était-tu des conséquences graves, ça? Oui. Et Dieu veille aussi en permettant que les effets possibles du mensonge soient mesurés par, dans le verset 10, et Abimélec dit, « Que nous as-tu fait? » Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme, ou ça aurait pu être lui, et que tu nous aies rendus coupables. Alors, le verset nous montre que comme païen, il était conscient que si ça l'avait arrivé, que Dieu n'a pas permis qu'il observe la situation, que ça aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves à la fois sur lui et sur son peuple. Quelque part, ça devrait nous faire réfléchir. Alors, on se devrait de rougir de honte lorsque des inconvertis ont davantage de crainte de Dieu que nous-mêmes. Le Seigneur voit à ce qu'Isaac mesure les conséquences possibles de sa faiblesse et de son péché. La perte d'un grand nombre de vies humaines aurait pu résulter de sa folie passagère. Des fois, on fait des bêtises, mais on ne se rend pas compte des conséquences, des fois, qui sont bien plus graves. En général, les conséquences des péchés sont beaucoup plus graves que celles qu'on se rend compte. Et dans le verset 11, Dieu veille en permettant qu'Abimélec soit bien disposé envers Isaac. Il aurait pu dire, écoute, là, t'es dans mon pays, c'est moi le roi, tu m'as menti, et moi j'ai décidé que je vous enlevais la vie à tous deux. Et là, ça aurait pu avoir comme conséquence que Dieu juge, et ça aurait pu enlever la vie d'une multitude de personnes à cause d'une menterie, comme on dit en québécois. Un mensonge. Mais dans le verset 11 du chapitre 26, Dieu nous montre qu'à cause du fait qu'il veille, il permet que les conséquences soient exemptées, qu'il ne les vive pas. Et Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. Imaginez-vous, il y avait plus de crainte de Dieu qu'un serviteur de Dieu. Il dit, celui qui va toucher à cet homme-là ou à cette femme-là sera puni de mort. Autrement dit, lui, il voyait mieux les conséquences que son serviteur. Honte à nous si on vit des circonstances semblables. Alors Abimélec accorde à Isaac sa protection royale alors qu'il aurait pu dire, écoute, là, tu as voulu rire de moi, je vais te montrer comment ça marche ici. Alors le Seigneur corrige Isaac en permettant qu'il constate sa grâce de façon indirecte, malgré son indignité et malgré son péché. Le péché d'Isaac est manifesté de façon sévère, par l'intermédiaire d'un roi païen et de façon publique. Si tu te fais reprendre pour un païen, puis tu es tout seul avec, c'est dur, là, mais tu peux le prendre. Mais si tu te fais reprendre par un païen en public, oh! C'est ça que Dieu permet que son serviteur vive parce qu'il avait besoin d'être corrigé, parce qu'il faisait quelque chose de vraiment incorrect. Alors, Dieu est un grand pédagogue. Il enseigne, comme on a dit tantôt, il enseigne. Alors, Isaac apprend sur lui-même. Oh, quel misérable je suis, quel menteur je suis. Après ça, il permet qu'il apprenne sur un païen qui a plus de crainte de Dieu que lui. Et il permet d'apprendre sur Dieu lui-même. Parce qu'après que tu réfléchis, tu dis, « Ouais, peut-être j'aurais été mieux de faire confiance à Dieu que de continuer de mentir. » Alors, quelles sont les applications qu'on peut tirer de cette étude-là qu'on a faite ce matin? Moi, j'en vois trois. Nos circonstances d'adversité sont choisies par Dieu lui-même. Dans la première, c'était une famine. Dans la deuxième, c'était d'aller dans un pays où ta femme est belle et où la convoitise des hommes risquait qu'il y a des gens qui désirent te tuer pour ramasser ta femme, comme on dit. Alors, première chose à tenir du texte d'aujourd'hui, c'est que nos circonstances d'adversité, les nôtres, chacun d'entre nous, va en connaître des circonstances d'adversité. Et n'oublions jamais que c'est Dieu lui-même qui les choisit. C'est long à prendre ça. Vous le dites, mais c'est long. Alors, si on vit les circonstances d'adversité que Dieu nous envoie, les difficultés sont moindres, sont amoindries, et Dieu fait tourner les choses à notre plus grand bien. Quand Dieu lui a dit « Descends pas en Égypte », il a resté à Guérar. Et c'est sûr que Dieu le fait, amoindrit son épreuve, et il en sort du plus grand bien pour lui. Car on obéit au Seigneur, il sort toujours du bien de ça. Mais si les circonstances d'adversité que Dieu lui-même choisit, on les vit dans la désobéissance, alors on va récolter des fruits amers. Tu sais, quand on mange quelque chose qui est amer, c'est pas bon, hein? Mais les circonstances que Dieu peut nous faire traverser peuvent avoir ça. Quels sont les fruits amers que Dieu lui fait vivre? La honte. Si tu te fais reprendre par un païen, et en plus en public, si tu n'as pas honte, là, le pauvre. La honte et la correction qui, parfois, Dieu permet qu'elle soit publique. Deuxième application, souvenons-nous aussi que nos adversités sont souvent le fruit de notre péché, de notre incrédulité et de nos décisions irréfléchies. Parce que, ici, il était dans un pays, sa femme était belle, Dieu avait dit qu'il serait avec lui, il aurait dû faire confiance à Dieu. T'as peur? Ça veut pas dire que t'as pas peur, ça. T'as une belle femme, tu sais comment est-ce que le monde est, qui sont assez méchants pour te tuer juste pour l'avoir. Mais ta confiance en Dieu doit être supérieure à la peur que tu vis. Et dans notre vie, on va en vivre des adversités comme ça, et parfois, il faut faire confiance à Dieu de façon aveugle. Parce que les circonstances qu'on voit, on ne voit pas comment on peut régler ça par nous-mêmes. Il faut faire confiance à celui qui a tous les moyens pour contrôler les situations. Alors, la troisième application, habituons-nous à voir et à observer la main invisible de Dieu pour nous sauver de situations pénibles et graves et de graves jugements et des conséquences de nos péchés à cause de son grand amour, de sa grâce infinie et de sa miséricorde insondable. Voyez-vous, dans les affaires de même, si Dieu n'était pas intervenu, là, en permettant que le roi voie la situation, en permettant que le païen le reprenne, les conséquences de son péché étaient énormes. Quand on parle de, à cause d'un péché qu'on fait, faire perdre la vie à plusieurs personnes, le peuple d'Abimélec, combien ça comprenait de personnes, des fois le Seigneur juge le peuple au complet. Alors, si on n'apprend pas de cela, on n'apprendra jamais, comme on dit. Alors, que notre grand Dieu soit adoré, béni et loué à tout jamais. Amen.